Demain, 31 août, date butoir pour la mise en veille à froid de l'usine du Nord. Sur place, les équipes s'organisent. Reportage à suivre dans ce journal. Nouvelles inquiétudes sur la situation sanitaire en province Nord. Le CHS annonce une diminution de l'offre de soins à Koumac. En métropole, l'absence de Premier ministre divise le Parti socialiste sur la stratégie à adopter, un sujet au cœur des universités d'été du PS à Blois. Jean-Michel Blanquer se lâche, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sort un livre dans lequel il étrille la stratégie du chef de l'État. Et puis en sport, première journée de compétition aux Jeux paralympiques et déjà 3 médailles d'or pour la France, dont une médaille en or. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition avec évidemment un rendez-vous à retrouver à la fin de ce journal. Ce sera le magazine Transparence. Elisabeth Noir recevra cette semaine Velma Falaeo qui a été élue hier présidente du Congrès. Elle sera donc l'invitée d'Elisabeth dans le magazine Transparence à retrouver aux alentours de midi, juste à la fin de ce journal. C'est aussi un sujet dont on reparlera dans le club politique ce soir à 16h45. Elisabeth sera en compagnie de ses consultants pour développer l'actualité locale.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès est-elle surtout, selon vous, un vote sanction à l'égard de Rocco Amitan ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la non-participation du PALICA et de l'UPM au congrès du FLNKS, prévu aujourd'hui et demain, peut provoquer l'implosion du FLNKS. Ils sont 32% à ne pas partager cet avis. Ce congrès du FLNKS doit donc se réunir demain à Koumac, mais les premières délégations sont attendues dès ce soir sur place. Pour expliquer leur décision de ne pas y participer, je vous rappelle que l'UPM et l'UPALICA ont mis en cause l'ordre du jour qui a été établi sans consensus, mais aussi l'absence de débat sur la stratégie de fond. Les deux parties du front estiment également que les conditions d'apaisement ne sont pas réunies pour tenir un tel congrès. Un reportage à Gaïnès pour poursuivre ce journal. L'usine du Nord se prépare en effet à passer en veille froide. Si l'annonce n'a pas encore été faite officiellement, la date du 31 août devrait marquer le lancement d'une phase de transition dans la mise en sommeil du site de KNS, faute de repreneur pour Cognambeau-Nickel. Sur place, les employés sont évidemment très marqués par ce nouveau cap qui s'apprête à être franchi. Le reportage sur place de Mickaël Juneski.
Un calme étonnant au cœur de l'usine de KNS, le site de Vavuto qui opérait il y a quelques mois encore 24 heures sur 24. Il n'est désormais plus occupé que par quelques 1200 salariés. Et à l'approche de la date butoir du 31 août, l'heure est à la planification du passage en veille froide.
Je m'appelle Wenegili Robert, je suis la directrice technique pour l'usine de Cognambeau-Nickel. L'étape de veille froide, ça va être de mettre en arrêt du coup nos principales installations qui sont les deux fours. Pour y arriver, on a besoin de passer par une phase de transition qui sont 2 mois sur lesquels nos équipes vont travailler pour justement arrêter dans les meilleures conditions tous nos équipements qui sont liés. Ça va consister en règle générale, une fois que les fours vont passer à 0 MW, de pouvoir en fait maintenir toutes les installations qui ont besoin d'être maintenues un certain temps pour finir d'accompagner l'arrêt de ces fours. On a besoin de maintenir certains équipements pour maintenir le refroidissement, pour maintenir l'intégrité de ces installations justement. Et du coup, il y aura toutes des étapes pour pouvoir arrêter toutes les installations annexes qui sont nos générateurs d'électricité, nos utilités qu'on appelle, donc tout ce qui approvisionnement en eau, air, gaz, donc azote et tout ça, qui permettait jusque-là de maintenir nos installations en phase veille chaude et qui vont du coup être arrêtées. Mais pour pouvoir les arrêter, c'est pas des installations qu'on peut juste arrêter d'un seul coup. On a besoin en fait d'avoir tout un processus d'accompagnement pour les arrêter. L'idée, c'est de les laisser en condition pour qu'on puisse les redémarrer s'il y a jamais repreneur. Il y a la plupart des actions qui ont été identifiées justement à mener pour que cet arrêt se passe dans les meilleures conditions. Ça a été couverte par des analyses de risques qui ont été faites en interne, justement pour nous assurer de capturer tous les risques qui pourraient être identifiés, que ce soit en termes de risque pour les personnes, en termes de risque pour les installations. Donc c'est vraiment un panoplie d'actions à réaliser qui ont été définies par rapport à ces analyses de risque.
Il n'y aura plus que quelques 200 personnels pour assurer la suite des opérations sur les 2 prochains mois. Un constat qui affecte évidemment les employés de l'usine encore sur place.
Stéphane Barthélémy, chef de département opération au four, KNS. Voilà, les dernières tâches, c'est se préparer à la phase de mise à zéro du four. On a préparé 4 équipes qui vont tourner au quart, jour et nuit, afin de préparer, finaliser l'arrêt du four pour s'assurer que quand il n'y aura plus personne sur site, il n'y a plus de danger ni de risque pour les installations, pour les personnes encore qui restent, pour la communauté autour et l'environnement.
Vous-même, ça fait combien de temps que vous travaillez à KNS ?
Ça va faire 10 ans que rentré technicien et maintenant chef de DEP, donc une belle évolution, mais un crève-cœur de partir, mais C'est comme ça, ça, c'est la vie. Pour l'instant, on se focus pas trop sur l'avenir. On gère les gens qui vont devoir rester. C'est déjà pas évident pour soi, mais c'est aussi pas évident pour les personnes qui restent, avec qui on va travailler. Donc on essaie de les accompagner au mieux. Les moyens de contrôle qu'on a mis en place après le 31 août, en tout cas, ils vont être un peu différents de ce qu'on a actuellement. Donc c'est toute cette partie accompagnement, organisation. Après, le reste, on verra.
C'est quoi qui revient le plus souvent dans les discussions entre collègues?
En ce moment, la plus grosse discussion, c'est quand est-ce qu'on met le four à zéro. Après, la plus grosse discussion, c'est qu'est-ce que tu as prévu après, quoi. C'est surtout ça. Nous, on avait déjà ces problématiques-là depuis 6 mois, de se dire c'est bientôt fini. Avec ce qui s'est passé depuis le 13 mai, c'est encore plus compliqué pour nous de se projeter. Donc, chacun partage un peu où est-ce qu'il en est dans son avenir. Les CV, les entretiens, les offres qu'ils voient à droite à gauche, on essaie de s'entraider aussi, on essaie de s'entraider entre nous aussi.
Au pied des fours, dans les couloirs du site industriel, certains rangent leurs casiers et plient leurs affaires sous le regard de ceux qui ont encore une mission à assurer à KNS.
Je suis Nasson Chloé, alors je suis coordinatrice de production, alors maintenant si je peux dire extinction. Et sinon là, du coup, en ce moment, je vais suivre sur les prochaines semaines. Je serai plus sur de la coordination veille froide en préparation de ce qu'on fera. Alors déjà, c'est très dur émotionnellement. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on va perdre des collègues. Et c'était vraiment des années d'expérience. En tout cas, on garde beaucoup de bons souvenirs. On a aussi, grâce à cette usine-là, cet outil de travail qu'on a dans le Nord, on a beaucoup grandi dans le monde professionnel et aussi sur le côté humain avec les personnes. Beaucoup d'évolution des gens et puis sur le comportement, la conscience professionnelle. On a vu beaucoup de gens évoluer. Moi aussi, je me suis vue aussi progresser dans ma carrière professionnelle et surtout aussi que c'est ma première expérience depuis la sortie d'école. 2010-2011, on a suivi une formation, on a vu la pause de nos installations. On ne va pas dire que tout s'achève, c'est juste une histoire, une page qui se tourne. On croit comment ce projet, on croit qu'elle va reprendre un jour.
Les opérations seront lancées dès la confirmation officielle du passage en veille froide, alors que la date butoir prévue est celle du 31 août. Après quoi, ce que tout le monde a à l'esprit ici, il faudra encore espérer l'annonce d'un potentiel repreneur pour décider du sort de l'usine du Nord. Depuis Koné, Mickaël Juneski, RRB.
Le reportage de Mickaël Juneski à l'usine du Nord. L'Assemblée de la province Nord était-elle réunie ce matin en séance plénière à Koné? Une séance qui a permis notamment d'ajuster le budget de la collectivité en fonction de la diminution annoncée des recettes de la Nouvelle-Calédonie, qui serait de l'ordre de 4 milliards. Une contrainte qui a conduit l'exécutif à réaliser des économies de fonctionnement de plus de 730 millions et à puiser dans son fonds de roulement pour environ 3 milliards. Parmi les autres textes à l'ordre du jour, on retiendra une avance de cotisation sociale de 3 mois adoptée à l'unanimité afin de venir en aide à la trésorerie de la CLR. Tous les textes d'ailleurs ont été adoptés à l'unanimité ce matin. Au cours de cette séance, le maire de Koumac, Wilfried Weiss, a aussi attiré l'attention des élus sur le désert médical qui s'annonce en province Nord. La situation sanitaire va en effet encore se dégrader en raison d'une pénurie d'infirmiers et de médecins. Le CHN a annoncé une diminution de l'offre de soins. À partir de lundi à Koumac, les urgences et les lits d'hospitalisation seront fermés. Et à Point-d'Imier, les urgences ne seront ouvertes qu'en semaine, du lundi au vendredi de 7h à 18h. En cas de problème, les patients devront donc appeler le centre 15. Les bus rails circuleront à nouveau à partir de lundi sur la côte ouest, Puebo et Panier. Le réseau était suspendu depuis le 1er juin, mais la reprise s'effectue sur des tronçons de route déjà sécurisés, explique Ludovic Lombard, le directeur du SMTI.
On a pu vérifier depuis le 1er août assez régulièrement l'état des routes, ce qui était praticable, ce qui ne l'était pas. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, aucune route territoriale n'était utilisable par le réseau rail. Depuis cette semaine, on a constaté une véritable évolution sur la côte ouest et sur l'extrême nord jusqu'à Puebo et Panier. Donc à partir de lundi prochain, on reprendra les lignes courantes sur toute la côte ouest et sur Puebo-Panier.
Ça a vocation à s'élargir éventuellement?
On espère. On a des missions toutes les semaines pour vérifier l'état des routes, notamment sur la côte est. Donc maintenant, il faudra recommencer toutes les semaines et donc on le refait à partir de lundi prochain. Un tour de la Nouvelle-Calédonie pour vérifier la présence ou pas de chicanes, la présence de barrages qui empêcheraient la reprise du réseau. Si ce n'est pas le cas, la reprise progressive du réseau se fera au fur et à mesure.
Des propos recueillis par Isabelle Pelletier. Des discussions sont en cours avec les communes, à la fois pour l'évolution de la sécurisation des routes ou pour des informations sur d'éventuels blocages. Et puis, avant de marquer une pause, ces tensions à Lifou, la case de la grande chefferie du Wetsch a été détruite. Elle a été victime d'un incendie hier soir vers 20h30. Les pompiers sont intervenus, tout comme les gendarmes. Pour le moment, aucun élément n'a été communiqué sur l'origine du sinistre, mais cet incendie intervient sur fond de tensions coutumières autour de la réfection de cette case de la grande chefferie du Wetsch. Il est 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Un sursis pour le système électrique calédonien. La semaine dernière, les élus du Congrès ont adopté une série de mesures qui visent au retour à l'équilibre courant des finances du système électrique, Nicolas Legrand.
Oui, l'objectif est simple, hein, c'est que le prix de l'électricité corresponde réellement au coût de la production, du transport et de la distribution. La Nouvelle-Calédonie va donc contribuer à hauteur de 8 milliards de francs en 2 ans. Et les Calédoniens aussi devront mettre la main à la poche. Les tarifs de l'électricité vont augmenter. On a beaucoup parlé de 34% en 2 ans, mais ce n'est qu'une hypothèse. Jean-Gabriel Fagé, le directeur général d'Enercal.
34%, en fait, c'est une simulation de la part de la DIMINC, du gouvernement. En fait, le dispositif prévoit que, avant le 1er octobre de chaque année, donc en 2024, 25 et 26, le calcul du système atteste de son déséquilibre. Et selon l'ampleur du déséquilibre, il y a une partie de la correction qui est faite en 3 temps. Tout ce qu'on sait, c'est que ça laisse du temps pour que les économies produisent leurs effets. Et puis, ça laisse aussi le temps aux 2 distributeurs d'accompagner leurs clients pour qu'ils adaptent leur consommation, qu'ils consomment moins, qu'ils ne consomment pas au moment où l'électricité est la plus chère. C'est des facteurs très importants pour l'équilibre économique.
Jean-Gabriel Fagé, qui était notre invité ce matin à 7h30, est aussi revenu sur les conséquences de la crise insurrectionnelle. Concernant Enercal, l'entreprise n'est pas épargnée et la situation de la ligne à haute tension à Saint-Louis inquiète tout particulièrement.
Beaucoup de dégradations sur les réseaux. On a perdu 500 clients sur cette période. On voit une baisse des consommations. Maintenant, le point qui nous préoccupe le plus, c'est clairement la situation de la liaison par une ligne haute tension entre le site de Prony et Nouméa, qui a été vandalisée, donc qui est hors service depuis 3 mois, et qui met en péril évidemment l'activité du métallurgiste, mais aussi la centrale électrique qui alimente les Calédoniens, celle de Prony Énergie. Donc on est extrêmement préoccupé par cette situation qui ne peut pas durer beaucoup plus longtemps sans provoquer des conséquences extrêmement lourdes pour la Calédonie. Le fait qu'on n'exploite pas la centrale de Prony, qui est la centrale désormais de nouveau la moins chère du territoire, ça engendre des surcoûts. Donc ça a aussi une conséquence sur le tarif à la fin, donc ça va être payé par les Calédoniens. Et puis, il y a surtout un industriel avec plus d'un millier d'emplois, et ça, c'est extrêmement grave pour les Calédonies.
Et dans ce contexte de baisse de la consommation, voire d'impayés des factures, l'entreprise a dû revoir sa stratégie.
Il faut faire une pause sur les productions d'énergie renouvelable, là, pour l'instant, parce qu'il y en a déjà beaucoup, et en fait, c'est aller plus vite que le développement du stockage, qui pour plein de raisons techniques et de coûts, n'a pas subi la même dynamique. Le gouvernement a lancé un projet d'une batterie à Boulouparis, il la soutient énormément, elle est indispensable à l'optimisation économique du système. Donc voilà, les projets, c'est petite pause sur le renouvelable, accélération du stockage, et dès qu'on a de la visibilité sur la métallurgie, c'est réaccélération du projet de la STEP de Tontouta, donc du stockage hydroélectrique, pour soutenir la métallurgie, qui est extrêmement durable et qui serait un atout pour la Calédonie.
Et grâce aux mesures prises par le Congrès la semaine dernière, Enercal va relancer toutefois certains chantiers qui étaient à l'arrêt. Il s'agit de maintenance à long terme et de gros entretiens.
Comment vous alimentez-vous en cette période de crise? C'est la question qu'a posée le cluster Pacific Food Lab au Calédonien dans une enquête qui a été lancée au début du mois d'août, Isabelle Pelletier.
Les Calédoniens ont-ils remplacé les produits comme le riz et les pâtes par des tubercules, par exemple? Rencontrent-ils des problèmes pour s'approvisionner ou des soucis budgétaires? Voici quelques-unes des questions que l'on peut retrouver dans cette enquête encore disponible sur les réseaux sociaux de Pacific Food Lab. L'objectif, récolter le plus d'avis afin d'appréhender les nouvelles habitudes de consommation des gens depuis les émeutes du 13 mai et d'aider les chefs et les producteurs membres de Pacific Food Lab à s'adapter aux nouvelles demandes. 350 personnes ont répondu jusque-là. L'échantillonnage est donc représentatif. En tout cas, sur le Grand Nouméa, les précisions de Charles Villot, le manager du cluster Pacific Food Lab.
Les gens ont changé leur comportement déjà. Il y a quand même plus de produits locaux. Mais le premier point qui ressort de l'enquête, surtout de façon vraiment très marquée, c'est l'impact de l'alimentation sur le budget alimentaire des familles. Quoi. Où il y a un peu plus de 80% des répondants qui ont senti une augmentation de leur budget. Ils l'ont qualifié d'à peu près de 50%. Ils achètent essentiellement en supermarché, ça reste un des points d'approvisionnement clés, mais ils ont augmenté la part sur les marchés locaux, les marchés de proximité. Voilà, ça représente un gros tiers de leurs approvisionnements. Maintenant, c'est les marchés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a à peu près un quart des répondants qui nous a dit qu'ils utilisaient le troc. Un des points qui ressort, c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés sur l'utilisation des produits locaux.
Pacific Food Lab va donc s'attacher à informer le plus possible sur les produits locaux et sur la manière de les préparer, à proposer des bons plans pour faire ses courses et aussi des recettes anti-gaspi, la clé selon le cluster pour faire des économies, tant dans les familles que dans les cantines. Il est encore possible de répondre la semaine prochaine à cette enquête proposée sur ces réseaux sociaux par Pacific Food Lab.
Et puis attention, la pêche, la vente, l'exposition à la vente et l'achat des picots est interdit à partir du 1er septembre et jusqu'au 31 janvier. Les huîtres de roche et les palétuviers sont aussi concernés par cette interdiction à partir du 1er septembre et en ce qui les concerne jusqu'au 30 avril. Cette réglementation est évidemment destinée à protéger ces espèces, explique Tiffen Reed, adjointe au chef du service de prévention de proximité et d'accompagnement technique de la province sud.
Cette réglementation, elle n'est pas faite pour embêter les gens, bien sûr, hein. Ce n'est pas notre objectif. C'est une période qui est importante pour permettre la reproduction de ces individus et pour pouvoir en profiter, bien sûr, à la réouverture et pour les générations futures. Il peut y avoir des amendes hein, qui sont mises pour les gens qui ne respectent pas cette réglementation. C'est un délit qui est passible d'une amende de 2 684 000 francs et de la confiscation du matériel de pêche. C'est pour ça que c'est très important de rappeler la réglementation à tout le monde, puisque l'objectif, bien sûr, il n'est pas de mettre des amendes, mais de faire en sorte que tout le monde comprenne bien cette réglementation et participe à la protection de notre environnement. La réglementation qui s'applique pour les picots et les huîtres, qui elles aussi ferment à partir du 1er septembre, s'appliquent autant pour les pêcheurs professionnels que pour les plaisanciers. Il y a une autre interdiction qui commence le 1er septembre, donc il y a une mesure qui est un petit peu moins bien connue des usagers, mais on a la réserve du grand port de Prony qui ferme également, qui est une réserve intégrale saisonnière à partir du 1er septembre.
Et rappelons que ces interdictions de pêche au picot, mais aussi aux huîtres de roche et de palétuvier, s'appliquent aussi évidemment en province nord. Un bilan plutôt positif, une semaine après le coup d'envoi des soldes d'hiver. Des remises inédites pour une première semaine. Les articles affichent des prix allant de moins 50 jusqu'à moins 80%. Affichettes publicitaires, publications sur les réseaux sociaux. Les opportunités se sont multipliées pour inviter les Calédoniens à venir profiter de bonnes affaires après les événements. Rue de l'Alma, les commerçants sont agréablement surpris de la belle affluence qu'ils rencontrent depuis une semaine.
Agréablement surprise. Je pensais vraiment qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça allait mal se passer les soldes. Et puis, non, agréablement surprise.
On a quand même beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent voir ce que nous proposons pour les soldes.
On a vendu beaucoup de soldes, on a vendu aussi beaucoup de nouveautés. Je pense qu'il y a une partie des gens quand même qui sont venus pour les soldes, qui se promenaient en ville, qui se sont dit on va venir voir là aussi. Nous, les années précédentes, on était peut-être 8 filles à travailler. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'être beaucoup moins, même si c'était quand même très satisfaisant le retour des clientes qu'on a eues et le monde qui était là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que par rapport à avant les événements, on a quand même beaucoup de nouveaux clients qu'on n'avait jamais vus. Et en fait, j'estime que c'est parce qu'avec tout ce qui a brûlé, les endroits qui ne sont plus là, la ville, en fait, elle revient un peu.
On a quand même eu des gens qui allaient peut-être plus souvent à l'extérieur de la ville et qui, cette fois-ci, voilà, eh bien, viennent maintenant au centre-ville pour le bonheur de tous les commerçants, bien évidemment.
Et je vous rappelle que ces soldes d'hiver se poursuivent jusqu'au 22 septembre. Le 6e salon Saveurs et Traditions est ouvert, lui, depuis hier à la Maison des Artisans. ans, mais il a été officiellement inauguré ce matin. Salon qui est l'occasion de relancer l'activité des artisans locaux qui ont fait face à de nombreux problèmes, a rappelé Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui était présente pour la cérémonie d'ouverture.
C'était de permettre à l'ensemble des artisans de la transformation alimentaire de pouvoir à nouveau avoir un espace de vente, revenir au contact de la clientèle et pouvoir faire des ventes, parce qu'on sait que depuis ces événements, les ventes ont été compliquées, mais pas que les ventes. La difficulté aussi de s'approvisionner en matières premières, qui n'a pas cherché du riz, qui n'a pas cherché les produits de première nécessité pour vivre au début de cette crise. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre aujourd'hui de pouvoir reprendre aussi le dessus, de se retrouver tous ensemble, parce que c'est important quand on est resté longtemps isolé, et d'avoir de belles ventes sur ce salon. Plus il y aura de monde et plus il y aura de ventes, et bon, on espère atteindre les 4000 personnes.
Le salon Saveur et Tradition qui est donc ouvert encore aujourd'hui et demain de 9h à 16h et dimanche de 9h à 14h. À 11h52, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170-059.
Kappa, Thermite, Rat, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Bodin.
Et d'abord l'actualité en métropole où il n'y a toujours pas de Premier ministre. Après une nouvelle série de consultations, le président de la République assure continuer à y travailler. Actuellement en déplacement en Serbie, Emmanuel Macron a évoqué le sujet en bottant en touche lorsqu'il a répondu à une question d'un journaliste.
Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre.
Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron a confirmé la vente de 12 avions Rafale à la Serbie pour un montant estimé à 3 milliards d'euros. En attendant, cette vacance de poste à Matignon provoque des tensions au Parti socialiste réuni à Blois pour ses universités d'été. Des divergences apparaissent entre ceux qui veulent prendre leur distance avec le nouveau Front populaire pour rejoindre une coalition de gouvernement et ceux qui privilégient une ligne ancrée dans le Front de gauche. En tout cas, cette question crée des divergences, notamment avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, comme l'a expliqué la présidente du Conseil national du Parti socialiste, Hélène Geoffroy.
Nous commençons à diverger au sein du Parti socialiste, mais comme à l'université d'été, c'est le moment de l'exposer. Continuer à suivre la ligne de Jean-Luc Mélenchon est une erreur, parce que nous allons rentrer dans une spirale négative quand on va voir le président de la République. Et qu'on dit soumission ou démission, quand on menace de marcher sur l'Elysée et quand maintenant la seule réponse politique que nous apportons, c'est une manifestation, alors nous sommes en train de nous fourvoyer.
Et de son côté, Raphaël Glucksmann vise clairement l'attitude de la France insoumise.
Moi, je pense que Lucie Castet est une personne qui est en quête, effectivement, de compromis. Ce que je critique, c'est la méthode adoptée par les partis politiques quand vous n'avez pas la majorité absolue. Quand vous avez 193 députés, la première chose que vous devez faire, c'est entamer des discussions avec les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme vous.
La situation politique crée donc toujours des remous. Et le responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron. C'est en tout cas l'avis de Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale et figure de proue du premier quinquennat Macron. Mais dans un livre qui vient de sortir, Jean-Michel Blanquer tire à boulet rouge sur le président de la République. Il s'en est expliqué dans une interview dans le magazine Le Point, Arthur Delaborde pour Europe 1.
Après un long silence, celui qui fut longtemps le chouchou d'Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots. Jean-Michel Blanquer qualifie la dissolution d'inspiration irrationnelle, au tempo hasardeux et aux conséquences graves. Acmé d'une vision bien trop personnelle de l'usage des pouvoirs présidentiels, dit-il. L'ancien ministre de l'Éducation nationale explique également les défaites aux européennes et aux législatives par, je cite, « les zigzags, les altermoiements, les procrastinations et les incohérences d'Emmanuel Macron ». Jean-Michel Blanquer s'en prend par ailleurs au Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Il était présenté comme l'arme anti-Bardella et il affirmait devoir tout à Emmanuel Macron, explique-t-il. Avant d'ajouter, 6 mois plus tard, le RN avait multiplié par 3 son avance sur Renaissance et Gabriel Attal épousait jusqu'à en prendre la tête la vague d'exécution l'exaspération des députés de la majorité à l'égard du président.
Et puis dans l'actualité en métropole également, l'imam radical des Bleus et à Marseille et son fils sont en garde à vue. Du cannabis a été saisi au domicile de Smaïn Benjilali, dont le fils de 21 ans avait par ailleurs été défenestré en début de semaine par un commando d'hommes cagoulés. La mosquée radicale, déjà visée depuis le 20 août dernier par une procédure de fermeture administrative en raison d'une pratique radicale de l'islam, se retrouve donc plongée dans une intrigue criminelle sur fond de trafic de stupéfiants. Il est 11h56, la dernière pause de ce journal avant de retrouver l'actualité sportive et ce sera ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Retrouvez toutes les saveurs et traditions de la Brousse au marché Broussard ce dimanche 1er septembre à Boulary au Mont d'Or de 6h à 12h. Gourmandise, plantes, boucherie, poissonnerie, artisanat, tout sera présent, même un espace pour les enfants. Alors n'oubliez pas, le marché Broussard, c'est dimanche de 6h à 12h au marché de Boulary. À très bientôt.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et direction Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Oui, Paris, où la première journée des Jeux Paralympiques s'est achevée avec 3 médailles, dont une en or pour la délégation tricolore, Léo Fichou.
La première marseillaise a retenti à la Défense Arena pour la victoire d'Hugo Didier en paranatation sur le 400 mètres nage libre. Déjà médaillé d'argent et de bronze à Tokyo en 2021, le Français a pris sa revanche à la maison.
Ouais, c'est une très belle revanche. À Tokyo, c'était une course réussie, mais un petit peu frustrante du fait de la médaille. Et là, je suis content de repartir avec l'or à la maison. C'était une année avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, beaucoup, beaucoup de bas. Et je trouve que cette course, elle représente vraiment tout ce qu'on a travaillé cette année. Relancer sur la deuxième partie de course, rester grand, tirer. J'ai vraiment pensé à mon entraîneur, à ses conseils pendant cette course. Et aujourd'hui, médaille d'or. Franchement, c'est fou, l'ambiance est fou, le public est complètement dingue. Quand j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télé, j'imaginais pas une telle ferveur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne solution pour remercier le public français.
Place au repos maintenant pour Hugo Didier qui sera engagé dès la nuit prochaine sur le 50 mètres nage libre, puis le 100 mètres d'eau et le 200 mètres 4 nages. Autre médaille décrochée cette nuit en paranatation, celle en argent d'Alex Portal sur le 100 mètres papillon. Et puis en paracyclisme sur piste, Marie Patouillet a elle aussi remporté l'argent sur le contre-la-montre 500 mètres. Et donc au classement des médailles, la France est en 5e position avec une médaille d'or et 2 médailles d'argent. C'est la Chine qui est en tête avec 5 médailles dont 4 titres.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On passe au football et c'est le retour de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu cette nuit, Léo.
Oui, le retour de la Ligue des Champions, mais avec un nouveau format cette année. Déjà, 36 équipes sont engagées et non plus 32. Fini les 8 groupes de 4. Désormais, il n'y a qu'une seule et même poule. Chaque équipe va disputer 8 rencontres contre 8 équipes différentes. Et les clubs français connaissent donc désormais leurs adversaires. Paris affrontera notamment Manchester City, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid. Lille sera opposée au Real de Madrid, à Liverpool et à la Juventus. Monaco jouera notamment contre l'Inter Milan et Arsenal. Et enfin, Brest affrontera le Real Madrid et le FC Barcelone.
En revanche, pas de Coupe d'Europe pour le RC Lens. Les 100 et or ont perdu cette nuit le barrage retour de la Ligue Europa Conférence. Défaite 2 buts à 1 sur la pelouse du Panathinaikos. À l'aller, les Lensois s'étaient imposés 2 buts à 1. On passe au tennis. C'est déjà terminé pour 20 des 21 Français engagés à l'US Open.
Et il ne reste plus qu'une seule Française. Il s'agit de Jessica Ponché. Elle s'est qualifiée grâce au forfait de la numéro 4 mondiale et Elena Rybakina pour le troisième tour du tournoi américain. Elle affrontera la Danoise Caroline Wozniacki ou la Mexicaine Renata Sarazoa. Du côté du tableau masculin, tous les tricolores sont éliminés. Arthur Fils, Adrien Manarino et Gaël Monfils ont perdu au deuxième tour cette nuit.
Le le cyclisme et Pablo Castrillo s'est imposé cette nuit sur la 12e étape de la Vuelta.
Pour son premier grand tour, l'Espagnol de 21 ans a remporté en solitaire l'étape entre Urens et Manzaneda. Au classement général, pas de changement. Ben O'Connor conserve le maillot rouge de leader avec plus de 3 minutes d'avance sur Primoz Roglic et presque 4 sur Henrik Maas. David Gaudu, le premier français, est 11e à 5 minutes 55 du leader. Ce soir, la 13e étape mènera le peloton de Lugo jusqu'au sommet de Puerto de Ancaras. L'ascension finale répertoriée en première catégorie sera grimpée pour la première fois sur la Vuelta. On devrait avoir droit à une explication entre les favoris.
Et puis on termine avec du golf. Les meilleurs golfeurs de la planète disputent actuellement le tournoi final de la FedEx Cup.
Le Tour Championship rassemble en effet les 30 meilleurs golfeurs de la saison sur le PGA Tour. L'Américain Scottie Scheffler a réalisé la meilleure carte de la première journée. Il termine à 6 coups en dessous du par. Mathieu Pavon réalise lui aussi une très belle journée. Le Français termine à moins 4, soit à seulement 2 petits coups du leader. Au classement général de la FedEx Cup, Scottie Scheffler est en tête avec un score de moins 16. Mathieu Pavon passe lui de la 24e à la 14e place.
Il est midi et bientôt 2 minutes. C'est la fin de ce journal.